Direction la zone industrielle des Champs de Bougeant à Bienne, où se situe l'entreprise de mon invité. Ses locaux se trouvent dans un bâtiment qu'elle partage avec d'autres sociétés. Je prends l'ascenseur et me rends au 5e étage, celui de la réception. À l'arrivée, je tombe nez à nez avec une bannière qui montre les technologies développées par l'entreprise. Des abréviations et des mots en anglais les définissent. Femto, Drilling and Milling, SACE, EDM. Mais que peut bien vouloir dire tout ceci? Pour ne rien vous cacher, ça ne me parle pas. Mais alors, pas du tout. L'entreprise de mon invité est active dans un domaine technique. Elle fête cette année ses 75 ans. Son nom est connu sur les marchés internationaux, mais ses activités restent méconnues du grand public. Ici, les gens ne savent pas vraiment ce que nous faisons. Nous sommes plus connus à 10 000 km d'ici, me dira mon invité plus tard. Je m'annonce à la réception où tourne en boucle une vidéo avec des prises de vue du bâtiment. On me dit de prendre place, je m'installe sur un canapé pour patienter. À proximité, d'autres panneaux montrent des pièces et des machines. Mon invité arrive depuis l'autre bout de la pièce, souriant, posé, il est surtout très à l'aise. Il y a de quoi, après plus de 30 ans passés dans l'entreprise, on peut dire qu'il fait partie des meubles. Il a occupé différents postes et gravi les échelons. Il est aujourd'hui Business Development Manager chez Posalux. Marco Nadalin, bonsoir.
Bonsoir.
Sortie de boîte, Anastasia Lirti.
Commençons cette émission par un petit cours d'étymologie. Ça va nous permettre de mieux comprendre les origines de l'entreprise. Posalux, ça vient du latin. Qu'est-ce que ça signifie ?
Alors, ça signifie posare, qui est posé, et lux, la lumière, puisque les deux fondateurs de l'entreprise Posalux, Monsieur Louis Monet et André Frocci, ont inventé un dispositif qui permet de pouvoir déposer du radium sur les cadrans de montre. Et c'est de là qu'effectivement est née l'entreprise Posalux et ses nouveaux dispositifs.
Ça permettait aussi surtout d'éviter le contact avec l'élément chimique.
Absolument.
On reviendra sur les activités de Posalux dans quelques instants, puisqu'on va d'abord évoquer votre parcours. Marco Nadalin, vous avez une formation de technicien constructeur. Vous travaillez depuis plus de 30 ans chez Posalux. C'était l'entreprise de vos rêves?
C'est effectivement l'entreprise avec laquelle j'ai désiré dès le départ de pouvoir y rentrer. Donc après avoir fait mon apprentissage de mécanicien de précision et mes études de technicien, en fait j'avais une vision de la machine-outil et Posalux reflétait absolument cette vision. Et j'ai postulé, en fait c'était la première place que j'ai postulé, même s'il a fallu revenir à la charge quelques mois plus tard parce qu'on était dans une période un peu morose. J'y suis quand même rentré. Donc c'était une motivation initiale et j'ai persisté pour pouvoir y arriver.
Vous y êtes rentré et surtout resté, on l'a dit, un 30 ans dans la même entreprise, ça devient rare de nos jours. Vous imaginiez une si longue carrière chez Posalux à vos débuts?
Non, pas du tout. Quand on commence effectivement une carrière professionnelle, en fait, on essaye de faire nos premières armes, de pouvoir apprendre le métier. Et puis, de fil en aiguille, on voit, et j'ai pu, en tout cas pour ma part, avoir eu la chance de pouvoir exercer en fait, plusieurs métiers qui m'ont permis de gravir et de pouvoir découvrir chaque fois autre chose, quoi. Et le fait d'avoir des produits à haute technologie fait que le travail n'est pas répétitif, puisqu'on découvre tous les jours quelque chose.
Justement, vous l'avez dit, vous avez gravi les échelons. Vous êtes business Development Manager. Ça veut à la fois tout et rien dire. Qu'est-ce que vous faites au quotidien?
Alors au quotidien, en fait, le but de l'entreprise ou la stratégie de l'entreprise est de développer des moyens de production pour du micro-usinage, pour des applications de niche, pour de la production de masse. Donc on identifie sur le marché un besoin, et puis on va développer une technologie pouvant la servir.
Allez-y.
L'objectif, en fait, du business development, c'est bien de pouvoir développer des affaires, de pouvoir, en fait, étendre les marchés que l'on sert avec nos technologies. C'est d'identifier ce savoir-faire, de pouvoir l'appliquer à d'autres marchés. Donc, mon travail, effectivement, est de pouvoir faire le développement de l'entreprise dans d'autres secteurs d'activité que ceux qu'on connaît aujourd'hui.
Osalux a une riche histoire puisque la société fête cette année ses 75 ans. En début d'émission, vous nous avez dit que tout avait commencé avec une machine pour la pose du radium sur le cadran des montres. Ça a duré combien de temps ?
Ça a duré quelques années et puis est venu en fait un peu plus de complexité. C'est la réalisation de machines qui permettaient de pouvoir faire des usinages dans les cadrans, que ce soit du fastage, du diamantage. Et puis, cette façon, cette maîtrise dans ce secteur-là a amené en fait les collaborateurs de l'époque de pouvoir dire ben, comment est-ce qu'on peut utiliser ce savoir-faire pour l'exploiter dans d'autres domaines. Et puis est né en fait l'usinage ou le perçage dans le circuit imprimé où tout ce qui avait été appris en fait dans le secteur de l'horlogerie a pu être adapté dans le secteur de l'électronique qui émergeait et qui nous a permis de pouvoir commencer de réaliser des machines à percer les circuits imprimés.
La plus forte période d'activité pour Posalux a été la fin des années 80, début 90. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ?
En fait, ce qui s'est passé, c'est que d'une part, on a resserré le programme d'activité que l'on avait, c'est-à-dire qu'on faisait des machines transfert, on a arrêté d'en faire pour se concentrer sur des applications de niche. Ça, c'est déjà un élément. Le deuxième élément aussi, c'est que dans les secteurs d'activité tels que l'électronique, où le perçage des circuits imprimés a commencé à décroître, où la production de masse a commencé à se délocaliser. Donc toute la production se faisait en Europe, principalement, et puis a migré gentiment vers l'Asie. On a continué de suivre, puisqu'il fallait proposer toujours nos moyens de production, mais ensuite, ces pays asiatiques ont, eux, eu la possibilité de pouvoir se créer ces mêmes moyens de production. Donc il y a eu effectivement, dans les années 90, un petit peu comme dans toute l'industrie suisse, où on avait l'impression d'être seul au monde, d'avoir une maîtrise, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'autres gens qui étaient capables de pouvoir faire autant bien, si ce n'est mieux. Donc on a dû se remettre en cause et de repartir de page vierge et de pouvoir se poser, se repositionner sur le marché avec notre savoir-faire, avec ses avances technologiques.
Au moment du grand boom, on l'imagine qu'il a fallu engager des collaborateurs, que vous étiez très nombreux. Combien de personnes travaillaient chez Posalux à la fin des années 80, début 90 ?
Alors on a atteint pratiquement des seuils de plus de 350 à 380 personnes. Dans ces années un peu folles, effectivement.
Aujourd'hui, vous êtes 110 collaborateurs. Ça veut dire que vous avez dû procéder à un moment ou un autre à des restructurations ?
C'est surtout les secteurs d'activité avec lesquels on travaillait qui ont fortement diminué le besoin ou la nécessité d'avoir autant de personnes. Donc c'est devenu progressif, en fait, quoi. C'est pas quelque chose qui a été subi d'un bloc. C'est simplement avec les années une redirection en fait de nos activités qui a fait que on l'a redimensionné à chaque étape.
Nous allons tout de suite mieux comprendre ce que fait Posalux. Nadia s'est rendue dans vos locaux il y a quelques jours. Vous lui avez fait une visite guidée.
Sortie de boîte.
Ici se trouve toute la partie développement et industrialisation. Nous avons donc nos services de développement qui sont la partie software, le hardware et le développement mécanique, puisque tous les produits donc, sont développés ici à Bienne, dans notre société. Puis on va voir tout à l'heure dans nos ateliers de montage pour la partie assemblage. Maintenant, on va arriver dans le secteur de montage des micro-usinages, tout ce qui est machines à percer et fraiser les circuits imprimés, qui sont des moyens de production à très haute cadence, très haute productivité. Le savoir-faire de la société Posalux est de pouvoir créer de l'innovation dans des nouveaux marchés en ayant une excellence dans une typologie de marché et puis d'utiliser ce savoir-faire pour aller le positionner dans un autre marché. Souvent, ça nous permet de pouvoir créer une disruption technologique et d'amener le côté innovation.
Et justement, cette machine, elle est assez impressionnante. Si on s'approche un peu plus d'elle, déjà, elle sert à quoi dans un langage de non-initié ?
Alors, c'est une machine qui permet de pouvoir usiner des petits trous. C'est vraiment un peu l'ADN de la société Posalux. C'est de réaliser des machines qui font tous des petits trous, tout ce qui est inférieur à 200 microns, c'est-à-dire
5 fois la taille d'un cheveu, ou bien un peu plus, 50 fois la taille d'un cheveu. Ça, c'est les plus gros des diamètres, mais on descend à des diamètres inférieurs, qui sont jusqu'à la taille d'un cheveu. Et puis, ces moyens de production ici sont dédiés à réaliser des trous dans ce qu'on appelle des circuits imprimés. Donc, les circuits imprimés, on les retrouve dans des produits de notre quotidien, qui sont les ordinateurs, qui sont nos smartphones. Ici, on peut atteindre des cadences qui percent jusqu'à 20 trous par seconde. Nous passons ici dans le secteur, on voit un ancien design. On dit, ah, mais c'est bizarre, comment ça se fait qu'on a en fait encore des anciens designs? Posalux permet de pouvoir rétrofitter des machines quand il y a des obsolescences. Ce sont des moyens de production qui ont plus de 15 ans, peuvent avoir 20 ans. Et puis, certains gros clients préfèrent réviser leurs machines, les mettre au bout du jour, et on donne cette possibilité justement pour s'affranchir de cette obsolescence. On a une partie production interne. En fait, il s'agit de réaliser des composants qui sont faits avec le même matériau qu'on utilise dans le circuit imprimé. Comme on est spécialisé à réaliser ce type de machine, eh bien, ici, on produit tous des composants qui n'ont pas forcément de sollicitation mécanique. Ici, on voit des vieilles machines, sont la génération multiphore, qui est la génération antérieure à l'ultra-speed. C'est des machines qu'on plus de 25 ans, 30 ans, et qui nous permettent de pouvoir produire à l'interne ces pièces. Donc ça nous fait un peu aussi une partie musée, mais on voit quelques machines qui ont 30 ans, qui ont 40 ans, pas seulement exposées, mais qui sont utilisées ici pour la production d'appoint de ce type de pièces. Alors on se trouve actuellement dans ce centre Da Vinci, où on a en fait les 4 technologies qui cohabitent. Pour chacune des technologies, en fait, on a un team qui comporte un technology manager et ses ingénieurs, et puis qui travaillent au quotidien sur des faisabilités, c'est-à-dire que les clients arrivent avec une problématique, et puis nous, on doit pouvoir leur proposer une solution industrielle par rapport à son problème.
Sortie de boîte.
On l'a entendu, dans le centre de recherche et d'application, vous avez notamment mentionné les ingénieurs. On retrouve de nombreux métiers chez Posalux. Est-ce que la main-d'œuvre dont vous avez besoin se trouve toujours en Suisse?
Pas toujours, effectivement. On a des difficultés de recruter, de pouvoir trouver les perles rares, effectivement, suivant les technologies, puisqu'on a... On peut avoir affaire à des technologies qui ne sont pas des technologies, je dirais, communes. Et c'est la difficulté de pouvoir ou devoir former des ingénieurs qui ne connaissent pas forcément cette typologie de technologie, ou alors de recruter un peu plus loin que nos frontières.
Donc vous faites de la formation à l'interne aussi ?
Ça peut effectivement arriver qu'il y ait des profils qui permettent de pouvoir, en fait... à venir sur des nouvelles technologies et puis de pouvoir les dompter, si on peut parler un petit peu ainsi, quoi.
Et la collaboration avec les autres écoles, par exemple, c'est aussi quelque chose que vous faites?
Alors effectivement, nous avons une société qui est environ de 110 personnes. Près de 40% de la société, en fait, est composée de tout ce qui est recherche, application et développement et industrialisation, ce qui nous permet de pouvoir avoir une puissance de développement assez importante. Mais en plus, pour nous permettre d'être en avant, on développe aussi des projets, justement, avec que ce soit des universités, donc que ce soit les EPF, que ce soit les HES, qui nous permettent de pouvoir avancer sur des projets qui sont des développements à moyen terme ou à long terme, ou bien développer des projets CTI ou actuellement qui sont appelés en fait InnoSuisse.
Le milieu technique, c'est un milieu très masculin. C'est aussi le cas chez Posalux, c'est un constat que vous tirez?
Oui, effectivement, c'est bien dommage, mais la société actuellement comprend 16 femmes, donc on voit qu'effectivement la proportion est très faible.
Sur 110 collaborateurs.
Sur 110 collaborateurs. Donc on voit qu'effectivement, même dans les écoles, hein, j'invite parfois les écoles d'ingénieurs qui viennent visiter la société, et la proportion en fait de personnel féminin est toujours très faible. Donc c'est peut-être un appel aux femmes de pouvoir s'intéresser à ces métiers qui sont techniques, mais c'est la réalité du jour.
Dans le reportage, vous avez mentionné le centre Da Vinci. C'est le nom que vous avez donné à votre centre de recherche et d'application. Pourquoi la référence? Pourquoi avez-vous choisi de faire référence à cet illustre personnage?
Parce qu'en fait, on a un petit peu le même état d'esprit, c'est-à-dire un peu une folie de découvrir et de développer des nouvelles technologies, des choses auxquelles peut-être les gens ne croient pas tout de suite. Et puis qu'avec le temps, en fait, elles submergent et puis elles font du succès dans l'industrie. Da Vinci avait cette faculté de pouvoir inventer des choses qui, 200 ou 300 ans après, en fait, sont nées de façon industrielle. Donc on avait un petit peu cet état d'esprit, et puis je l'ai trouvé très, très adéquat et qui ressemblait effectivement à notre ADN de pouvoir appeler ce fameux centre, le centre Da Vinci.
Vous avez parlé du développement des technologies. Justement, développer tous ces procédés, ça doit prendre beaucoup de temps, et qui dit temps dit argent surtout. Comment faites-vous pour amortir tout cet investissement?
Eh bien, le but, c'est de pouvoir le reproduire à maintes fois. Donc, c'est bien l'ADN de la société, c'est d'identifier un marché de niche ou une application de niche qui nous permet de dire, OK, ça, c'est un marché, il y a du volume à réaliser. La technologie qu'on va développer, elle va nous prendre beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, mais on va pouvoir la rentabiliser parce qu'on peut la dépliquer, la multiplier, en fait, plusieurs fois à moyen et long terme. Donc, on doit bien identifier, en faisant la veille technologique, comment est-ce qu'on peut se positionner sur un marché qui a du volume.
Ça se fait donc très souvent. Vous y arrivez dans la plupart des cas?
Dans la plupart des cas, absolument, oui.
Vous êtes actif dans le domaine automobile. Là, vous avez un concurrent, et pas des moindres, le géant allemand Bosch. Comment une PME comme Posalux arrive à rivaliser avec un tel mastodonte?
Eh bien, peut-être parce qu'on était un petit peu les pionniers au départ, et un peu plus de 20 ans dans l'injection diesel, où il fallait en fait révolutionner l'injection. Et les clients sont venus à Posalux, puisqu'on était déjà dans le secteur. Ils ont dit, ben maintenant, il nous faut changer complètement la façon de réaliser un injecteur, et il nous faut réaliser des trous dans des matériaux qui sont trempés. Donc on était pionniers, puis au départ, à créer cette innovation. Et puis, ben, le mastodonte Bosch, comme vous le mentionnez, effectivement, a dû s'acquérir aussi de ce type de technologie pour pouvoir être dans le marché comme nous le sommes. Actuellement, c'est vrai que dans le milieu du diesel, vous avez deux possibilités dans le monde. C'est où les gens achètent des injecteurs chez Bosch, ou bien des équipementiers achètent des machines chez Posalux.
Posalux fête donc cette année ses 75 ans. Le passé est important pour une entreprise, mais elle se doit aussi de toujours regarder vers l'avenir. Posalux a des bureaux en Allemagne, à Taïwan et en Corée du Sud. Le développement de la société, ça passe par une présence accrue à l'étranger?
Elle est indispensable. Cette présence nous permet de pouvoir faire cette veille technologique, d'être vraiment très près du client. Nous avons notre centre d'application Da Vinci qui nous permet de pouvoir faire tout ce qui est faisabilité, puisque notre ADN est non seulement de fournir des technologies en tant que telles, mais une solution qui comprend le process. Donc d'avoir cette proximité avec le client nous permet de bien comprendre quels sont ses challenges, quels sont ses problèmes, pour pouvoir justement proposer un moyen de production qui résout ces problèmes.
Développer, donc vous avez aussi vous souhaitez développer d'autres marchés, c'est ce que souhaite toujours faire une entreprise, mais Posalux souhaite aussi récupérer son premier marché qui était l'horlogerie, on l'a dit en début d'émission avec la machine pour la pose du radium. Aujourd'hui, l'horlogerie ne représente même pas le 5% de vos activités. Comment faire pour parvenir à récupérer ce marché?
En fait, on utilise de la même manière qu'on a toujours utilisé à Posalux, c'est-à-dire ben, à partir du moment où on a un savoir-faire dans un secteur, on dit ben, si on transfère ce savoir-faire dans un nouveau secteur, on apporte un élément innovatif. C'est ce qu'on a fait il y a à peu près 7 ou 8 ans dans l'horlogerie avec une de nos technologies, qui fait qu'on a apporté en fait un élément de productivité et de flexibilité qu'on ne trouvait pas dans le secteur actuel de l'horlogerie, avec des broches qui tournent à plus de 200 000 tours par minute. Donc on amène des éléments technologiques et un savoir-faire qui fait que on devient intéressant. Donc, c'est par ce biais-là qu'on permet de pouvoir revenir dans le milieu, je dirais, local de l'horlogerie.
À 18h52, il est temps pour nous de faire place à Pile à l'heure, la chronique horlogère de Marie-Lise Saillard.
Pile à l'heure.
Ça ne vous aura pas échappé, on a changé d'heure pour passer à l'heure d'hiver. C'est d'ailleurs peut-être la dernière fois, mais nous aurons l'occasion d'en reparler. Depuis plusieurs années, la commune de Val-de-Travers a pris l'habitude de célébrer le changement d'heure.
J'aime pas les changements d'heure, ça met de mauvaise humeur.
Cette fois, elle a invité deux conférenciers, dont Pierre Thoman, professeur à l'Institut de physique de l'Université de Neuchâtel, actif dans le laboratoire Temps Fréquence. Dans sa présentation, ce spécialiste a mentionné le rôle du Bureau international des poids et mesures, le BIPM, qui se trouve à Sèvres, en région parisienne. Mais alors, Pierre Thoman, à quoi sert le BIPM ?
À régler les rapports entre pays du point de vue de la métrologie, c'est-à-dire du point de vue de la mesure des quantités physiques, comme le temps en particulier, mais aussi les longueurs, les masses, etc., dans le but de faciliter et de rendre équitable, au fond, les échanges économiques, essentiellement, parce qu'il s'agit de mettre tout le monde d'accord sur la manière dont on pèse un kilo de viande, dont on estime une tonne de brut, qu'on échange des kilowattheures, etc.
Ok, mais alors nous, dans Pile à l'heure, on s'intéresse surtout à la notion de temps. Le Bureau international des poids et mesures s'occupe bien de la mesure du temps, oui ?
C'est venu un peu plus tard. En fait, pendant longtemps, le BIPM ne s'est pas du tout occupé de la définition du temps, parce que c'était le domaine réservé des astronomes, parce que le temps était piloté par la rotation de la Terre. Et en fait, depuis que le temps est devenu atomique, en 1967, là, le BIPM a été chargé de s'occuper de ça d'une manière très, très active.
Dans Bureau international des poids et mesures, il y a international. Est-ce que ça veut dire que c'est la référence pour tous les États du monde, Pierre Thoman ?
Oui, en fait, la Convention du Mètre, elle réunit peut-être pas la totalité des États de la planète, mais je pense que c'est un des accords internationaux qui a rassemblé la plus grande majorité des États de la Terre. Et c'est une collaboration qui marche en fait extrêmement bien.
Du coup, est-ce que ça veut dire que c'est au Bureau international des poids et mesures qu'on trouve l'heure la plus précise, l'heure de référence ?
Alors, c'est pas là qu'on dispose du temps le plus précis, parce qu'en fait, au BIPM, il n'y a pas d'horloge en particulier, mais c'est lui qui rassemble toutes les observations en fait sur des horloges qui sont dispersées sur l'ensemble de la planète. En fait, il y a à peu près 400 horloges dans les instituts nationaux de métrologie qui collaborent pour l'élaboration d'une échelle de temps internationale. Et ça, c'est le travail du BIPM, mais c'est un travail essentiellement de mathématiciens en fait. C'est d'évaluer les mesures expérimentales de comparaison des horloges et d'en tirer une espèce de moyenne la plus intelligente possible entre les bonnes horloges, les horloges un petit peu moins bonnes, et puis de piloter ça avec de ce qu'on appelle les horloges primaires, qui sont vraiment la référence dans la durée de la seconde.
Maintenant, c'est tout sur le BIPM. Merci Pierre Thoman.
Pile à l'heure.
Marco Nadalin, je vous ai cité en introduction, vous m'aviez dit que Posalux était plus connu loin à la ronde qu'en Suisse, par exemple. Mieux communiquer, ça fait partie de vos objectifs futurs ?
Indispensable, effectivement, pour pouvoir démarcher des nouveaux marchés. Donc, avoir une présence, la communication soignée, maintenant qu'on est dans l'ère de la digitalisation, de pouvoir mieux communiquer afin d'être visible.
Ça passe aussi par les réseaux sociaux, par exemple ?
Absolument, que ce soit les sites internet, que ce soit Facebook, que ce soit LinkedIn, que ce soit tous les moyens, effectivement, de réseaux sociaux qui permettent de pouvoir faire parler de Posalux.
C'est la fin de cette émission. Marco Nadalin, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes Business Development Manager chez Posalux. Belle soirée. Merci aussi à Sven qui était à la technique. L'intégralité de cette émission sera disponible tout à l'heure sur notre site internet. Sortie de boîte revient dans 2 semaines. Ça sera en compagnie d'Alexandre Steiner et Philippe Semama, président du conseil d'administration du groupe LNS, actif dans les périphériques pour la machine-outil.
Sortie de boîte.